France Inter.
Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, acquitté à tort, l'affaire Henriette Caillot. Imaginez qu'aujourd'hui, là, en 2025, imaginez que l'épouse d'un homme politique majeur, le ministre des Finances, par exemple, assassine le directeur d'un grand journal parce que celui-ci a dit du mal de son mari. Imaginez le séisme. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'affaire Caillot en 1914. Et là, nous ne sommes pas dans la fiction. Le ministre des Finances, c'est Joseph Caillot, sa femme, c'est Henriette, et le journaliste, c'est Gaston Calmette, directeur du Figaro. Le 28 juin 1914, la cour d'assises de la Seine rend son verdict et acquitte Madame Henriette Caillot du meurtre de Monsieur Gaston Calmette, un crime que l'accusé a pourtant reconnu, que tous les éléments matériels accusent et dont l'enquête a même démontré la préméditation. Retour sur l'un des plus grands dossiers judiciaires de la Belle Époque, qui met en lumière alliances, marchandages, acharnement médiatique et coup bas dans la France de 1914, à quelques semaines à peine du début de la Première Guerre mondiale. Après le récit, notre invité Marc Edrich, aujourd'hui magistrat et président de cour d'assises. Il est l'auteur du livre intitulé « Les acquittements scandaleux des années folles » aux éditions Michel Lot en septembre dernier. Il nous attend dans les studios de Martinique Première à Fort-de-France. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct et en partenariat aujourd'hui avec Retro News, le site de presse de la BNF. Récit documentaire, Adrien Cara, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
La preuve indiscutable, terrible, honteuse, malsaine, qui établit la félonie de Monsieur le ministre Caillot, je la donne avec un profond regret. Je l'avoue, hélas. Et je l'affirme sur mon honneur, c'est la première fois que je publie une lettre privée, une lettre intime, malgré la volonté de son détenteur. Ma dignité en éprouve une vraie souffrance. Mais comment aurais-je pu tenir plus longtemps caché le témoignage destiné à éblouir tous les yeux ? N'oublions pas que je lutte contre un homme qui supprime les lois elles-mêmes quand son intérêt est en jeu.
Vendredi 13 mars 1914, Paris. Dans les kiosques à journaux de la capitale, le nom de Joseph Caillot s'affiche en une du Figaro. Et comme vous venez de l'entendre, l'article consacré au ministre est un saisissant réquisitoire. D'ailleurs, son titre est sans nuance. La preuve des machinations secrètes de M. Caillot révélée, le document foudroyant. Après quelques paragraphes remplis de propos acerbes, critiques et acides et autres insinuations, Le Figaro publie des extraits d'une lettre intime que le ministre Caillot a écrite 13 ans plus tôt à celle qui était alors sa maîtresse. Un message rédigé à la main qui porte la signature « Joe ». Dans cette correspondance personnelle, Joseph Caillot, alors député de la République, se vante d'avoir réussi, je le cite, « à écraser la réforme de l'impôt sur le revenu en ayant l'air de la défendre devant les autres parlementaires ». Pour le Figaro, il s'agit là d'un acte de félonie envers les électeurs, les siens en plus. Pour la droite, c'est la preuve manifeste de la trahison de Caillot. La gauche, elle, dénonce une violation de la vie privée et des propos rapportés hors contexte. Le ministre appartient au parti radical, centre-gauche. Voilà déjà plus de 2 mois que Joseph Caillot est la cible d'une virulente campagne de presse. Au total, le Figaro lui consacre plus de 130 articles. Au travers de récits, d'anecdotes, de témoignages ou de documents, chaque papier du journal dépeint Caillot comme un politicien sans scrupules, au service de ses intérêts d'abord, de ceux de ses amis ensuite, et enfin de cette gauche décrite comme corrompue et noyée dans les affaires. Cette campagne de presse du Figaro contre le ministre atteint un tel degré de violence verbale que le journaliste de l'Action française, Léon Daudet, antisémite, anti-Dreyfusard et adepte de la provocation, admettra plus tard qu'il s'agissait là d'une chasse à l'homme devenu outrancière. Derrière cette opération de déstabilisation du ministre des Finances, on trouve un chef d'orchestre, Gaston Calmette, patron du Figaro. Et, comme l'explique l'historien Jean-Yves Le Naour, si Calmette est celui qui donne le rythme, il n'a pas écrit seul la partition.
L'affaire avait une dimension fortement politique, puisque des dirigeants de droite avaient incité ce journaliste à lancer une virulente campagne de presse contre Joseph Caillaux. Comme nous étions alors à la veille des élections législatives, les conservateurs craignaient qu'en cas de victoire de la gauche, la réforme fiscale que Caillaux préparait depuis plusieurs années soit adoptée par la nouvelle Chambre des députés. Pour tenter de le discréditer, Calmette accusa Caillaux d'avoir reçu des sommes d'argent pour financer ses entreprises politiques.
Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, l'affaire Caillaux suscite de nombreux commentaires. La gauche y voit un acharnement immonde qui rappelle les heures nauséabondes de l'affaire Dreyfus. À travers la personne de Caillaux, c'est son combat politique, celui qui prévoit notamment l'instauration d'un impôt sur le revenu et la réduction de la durée des services militaires, qu'on tente d'abattre. Idée relayée par l'un des amis et fidèle soutien de Caillaux, le député Jean Jaurès lui-même. De l'autre côté de l'hémicycle, dans les rangs de la droite et du centre, les ennemis de Caillaux se réjouissent du scandale. D'ailleurs, ils l'ont eux-mêmes instigé, et ils s'en frottent les mains. Parmi eux, deux hommes font figure de proue, Louis Barthou et Aristide Briand. Si sur le plan des idées, beaucoup les séparent, leur haine de Caillaux les unit. C'est que ce ministre-là, on le sait, est proche des milieux d'affaires et des grands patrons, avec qui il partage d'ailleurs le fait d'être lui aussi millionnaire. C'est par ailleurs un pacifiste qui veut se rapprocher de l'Allemagne, ne pas lui faire la guerre en tout cas, ce qui lui vaut le ressentiment, pour ne pas dire plus, des milieux nationalistes. Député, puis ministre, il pourrait devenir le prochain président du Conseil si la gauche remportait les élections d'avril. À 49 ans, Caillaux présente donc une menace. À cela s'ajoute un comportement, une manière de s'habiller, de s'exprimer en public, souvent perçue comme une provocation par ses adversaires, alors qu'il s'agit en réalité de maladresse. Comme en témoignera celui qui fut son secrétaire personnel, Aurélien Philippe.
Joseph Caillaux était un cerveau, mais aussi un crâne. Sa calvitie presque totale était loin de l'enlaidir. Il était suprêmement élégant. « Je suis un bourgeois entaché de noblesse », disait-il à la haute cour. Il piaffait constamment comme un pur sang. Son monocle tournoyait autour de son index droit. Il ne présentait pas son monocle aux gens, il présentait les gens à son monocle. Il était physiquement courageux jusqu'à la témérité. Il bravait l'opinion. Sa petite voix aigrelette se faisait facilement provocante. C'était un seigneur de cap et d'épée, venu trop tard, au lendemain du romantisme.
Victime collatérale de cette affaire, Henriette Caillaux, femme du ministre des Finances. Jusqu'ici discrète, cette femme brune de 39 ans, coquette et habituée des sphères mondaines, se retrouve au cœur de toutes les conversations. Une situation désobligeante pour celle qui tente depuis des années de parachever son insertion dans le club très fermé des belles dames dans les salons de la capitale. En privé, Henriette Caillaux fulmine contre Calmette. Et la situation prend un tournant inattendu lorsqu'elle et son mari découvrent que le directeur du Figaro s'apprête à publier des extraits de leur propre correspondance intime. Une période où lui, Joseph, et elle, Henriette, étaient déjà engagés dans d'autres unions, mais se convoitaient mutuellement. Le couple Caillaux tente alors de faire empêcher la publication des documents. Henriette rencontre un avocat, puis un juge, mais les deux lui expliquent qu'il est impossible de museler le Figaro. Et pour cause. Les documents n'ont été ni volés, ni dupliqués, ni même inventés. Non, non, c'est la première femme de Caillaux elle-même qui a donné les lettres originales à Gaston Calmette. En toile de fond, s'écrit ici une vengeance personnelle de l'ex-épouse contre son ancien mari devenu ministre. De son côté, Caillaux demande l'intervention du président de la République, Raymond Poincaré, dont il connaît les liens avec la droite. Partout, le Figaro... Voilà un homme qui peut faire cesser cette campagne de presse. Mais ce président-là, qu'on dit pas vraiment bravache, botte en touche. Cela dit, courageux ou pas, Poincaré sait très bien qu'à quelques semaines d'une campagne électorale, tenter d'influencer ou de faire interdire de publication un journal aussi puissant que le Figaro serait suicidaire. D'autant, et il le sait aussi, que derrière cette affaire, il y a l'amitié qui lie Barthou à Calmette. Autant dire que le directeur du Figaro ne reculera devant rien pour servir les intérêts de son ami, l'un des barons de la droite républicaine. Voilà où nous en sommes, en ce milieu de journée du lundi 16 mars 1914. le prochain épisode, la prochaine révélation, risque de mettre au jour des secrets intimes du couple Caillou et les frasques réelles ou supposées de Monsieur Caillou. Henriette est dans tous ses états et ne voit aucun recours judiciaire possible. Tout cela à l'approche d'une importante échéance électorale qui pourrait permettre à Joseph Caillou d'accéder aux plus hautes fonctions, entendez, président du Conseil. Précision importante, bien loin d'être un épisode isolé, l'affaire Caillou est au contraire l'illustration même du climat détestable qui chahute depuis une décennie la France politique dite de la Belle Époque. Mais apparemment pas pour tout le monde.
Bien entendu, mon ex-épouse fait partie du complot qui alimente mes adversaires politiques. Se calmette. Je lui enverrai bien mes témoins et je réglerai ça sur le prix, entre hommes. Mais je le sais, il n'est qu'un homme de paille. Derrière lui, c'est Louis Barthou, Aristide Briand, et peut-être même Raymond Poincaré qui tire les ficelles. Ce sont eux les grands responsables de cette campagne.
Lundi 16 mars 1914, Paris, rue Alphonse de Neuville. Au domicile des Caillou, le déjeuner se termine dans une ambiance tendue. Au cœur de la conversation entre le ministre des Finances et sa femme, bien sûr, ces révélations que le Figaro s'apprête à faire le lendemain sur la correspondance personnelle du couple. Et possiblement aussi sur d'autres affaires de politique internationale dans lesquelles Caillou était impliqué par le passé. Homme d'ordinaire calme, réservé, il aurait lancé à sa femme « J'irai bien casser la gueule de Calmette ». Propos invérifiable, mais qu'Henriette racontera aux policiers. Les domestiques présents confirmeront, eux, avoir vu le ministre en effet très remonté et de mauvaise humeur. Plus tard, face aux policiers, Henriette affirme avoir leur pensé à commettre l'irréparable. Oui, à se suicider pour sauver l'honneur de son couple et la carrière de son mari. Un geste de désespoir face à, dit-elle, l'immonde tentative du Figaro de violer son intimité. Des sentiments exacerbés qui vont avoir un impact sur le déroulé de cette journée du lundi 16 mars. Après le déjeuner, Joseph Caillou part rencontrer le président de la République pour lui demander de mettre fin aux attaques répétées du Figaro. Bien. Puis il se rend au Sénat, alors qu'Henriette, elle, continue sa journée. Après sa manufacture, la visite d'un traiteur pour l'organisation d'un dîner, l'écriture d'une lettre pour confirmer sa venue à l'ambassade d'Italie qui organise une réception, Henriette se rend au bureau de placement des domestiques. Et c'est là qu'elle aurait eu l'idée d'aller faire peur à Calmette, de faire scandale. Elle demande alors à son chauffeur de la conduire à l'armurerie où Joseph se rend d'habitude pour acheter son matériel de chasse. Une fois sur place, elle essaie des armes de poing et jette son dévolu sur un petit pistolet Browning, léger, facile à prendre en main, et surtout à dissimuler dans un sac ou dans la poche d'une veste. Elle l'achète et elle repart. Il est 16h. Après être passée à la banque récupérer des documents pour son mari, Henriette Caillou rentre chez elle. Et là, sa décision est prise. Elle va aller le voir, ce Calmette. Avant de partir, elle écrit à la main une lettre pour son mari.
Mon mari bien-aimé, quand ce matin je t'ai rendu compte de mon entretien avec le juge qui m'a appris que nous n'avions en France aucune loi pour nous protéger contre les calomnies, tu m'as dit que tu irais casser la gueule à l'ignoble Calmette. J'ai compris que ta décision était irrévocable. Alors c'est moi qui ferai justice. La France et la République ont besoin de toi. Pardonne-moi. Je t'aime et t'embrasse du plus profond de mon cœur. Ton Henriette.
Il est un peu plus de 17h15 lorsque Henriette Caillou débarque à l'hôtel particulier qui sert de bureau au journaliste du Figaro. Elle entre d'un pas décidé, gravit les escaliers et se rend dans l'antichambre du bureau du directeur. Là, elle demande à parler à Calmette. Surpris, le secrétaire lui répond que son patron n'est pas là. Bien, Henriette Caillou s'assoit. L'attente dure une heure.
Une dame vous attend, monsieur.
Faites entrer.
Bien, monsieur. Monsieur Calmette vous attend, madame.
Lorsque Calmette arrive enfin, il est accompagné de l'écrivain Paul Bourget. Par galanterie, et aussi par obligation envers la femme d'un ministre, il accepte de recevoir Henriette Caillou dans son bureau. Mais à peine a-t-il ouvert la porte qu'Henriette passe à la deuxième étape de son plan, comme le rapporte un témoin de la scène.
Asseyez-vous, madame. Je vous écoute. Pendant que M. Calmette déposait son chapeau et sa canne sur un meuble, la tragique visiteuse tirait sur lui deux fois, presque à bout portant. Le directeur du Figaro, surpris, contourna alors son bureau, cherchant à se réfugier vers la gauche de la pièce. Madame Caillot le poursuivit, continuant à tirer. Un troisième projectile a été retrouvé sur le tapis, entre la bibliothèque et le bureau. Les autres sont restés dans le corps de la victime.
Ne me touchez pas ! Ne me touchez pas ! Ne me touchez pas !
Le médecin, mais il faut appeler un médecin !
Alerté par le bruit des cinq détonations, plusieurs employés du Figaro se précipitent dans le bureau du directeur, qui gît, là, au sol, dans une mare de sang. En attendant le médecin, on le redresse et on l'installe dans un fauteuil. Dans un dernier sursaut, Calmette lâche, d'une voix à peine audible, « Je n'ai fait que mon devoir. Ce que j'ai fait, je l'ai fait sans haine. » À quelques mètres de là, Henriette Caillot déclare « Il n'y a plus de justice en France, c'était le seul moyen d'en finir. » La messe est dite. Interrogée, la femme du ministre des Finances affirme que les coups sont partis tout seuls. C'est fâcheux. Parfois, les pistolets tirent tout seuls, c'est bien connu. Alors elle explique avoir voulu faire peur à Calmette pour qu'il arrête de harceler son ménage et espère que ce dernier s'en sortira. Sauf que le pistolet a tiré trois fois tout seul, dont trois balles dans le corps du ministre. Une dans le haut de la cuisse, une dans le thorax et la dernière dans l'abdomen. Mais le directeur du Figaro respire encore. Alors on l'emmène en urgence dans une clinique de Neuilly. Alerté à son tour, le ministre des Finances, Joseph Caillot, quitte le Sénat et se rend au commissariat du Faubourg Montmartre pour retrouver son épouse. Sur place, une foule se presse aux abords de l'immeuble et le ministre se retrouve chahuté par les badauds qui l'accusent d'avoir fomenté le crime. La suite de ce drame s'écrit quelques heures plus tard, dans la nuit du 16 au 17 mars. Après une longue attente et une opération critique, Calmette meurt entre les mains des médecins d'une hémorragie au niveau de l'abdomen. Il est environ 1h du matin. Lorsqu'il l'apprend, Joseph Caillot a déjà remis sa lettre de démission au président de la République, Raymond Poincaré. Henriette, elle, passe sa première nuit en prison. Désormais accusée d'homicide volontaire avec préméditation, c'est depuis sa cellule de la prison Saint-Lazare qu'elle attend son procès.
Pour abonder le peu que j'ai, je pourrais bien.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Henriette Caillot.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
Ces deux personnages, leur couple, a dominé pendant un instant l'histoire de France. Vous vous rappelez que Joseph Caillot était un personnage très important. Il avait déjà été ministre plusieurs fois, je crois, au moment où sa femme, Henriette Caillot, a tiré sur le directeur du Figaro, Calmette, parce que Calmette avait commencé une série d'articles sur l'intimité du couple Caillot et sur les aventures que Caillot avait eues avant son mariage. Comme chacun sait maintenant, Madame Caillot, ivre de jalousie, de colère, a tiré sur Calmette qui s'est effondré à ses pieds.
Messieurs, la cour!
Lundi 20 juillet 1914, Paris. Quatre mois presque jour pour jour après l'assassinat du directeur du Figaro, Gaston Calmette, le procès pour homicide volontaire d'Henriette Caillot s'ouvre devant la cour d'assises de la Seine dans un contexte pas forcément favorable à la sérénité des débats, comme on dit. Quelques semaines plus tôt, en effet, le 28 juin, l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche à Sarajevo a ravivé les craintes de l'imminence d'une guerre contre l'Allemagne et contre les empires d'Europe. D'ailleurs, l'Allemagne de Guillaume II n'attendait que ça, qu'une mèche s'allume. En France comme ailleurs, par voie de presse, pacifistes et bellicistes s'affrontent, appelant chacun à choisir son camp. Dans les rues de Paris, les manifestations se multiplient et finissent souvent en bagarre. Au tribunal, comme il est coutume à l'époque, c'est devant Dieu et devant les hommes qu'Henriette Caillot prête serment à l'ouverture de l'audience. Elle porte une tenue sobre, robe sombre et chapeau qu'elles sont accrochées de longues plumes. La salle est comble. Il y a des politiques de tous bords, mais surtout des journalistes et bien sûr l'ancien ministre des Finances, mari de l'accusé, Joseph Caillot. Ce procès, c'est l'événement que tout Paris attend. Car en coulisses, nombreux sont les observateurs qui sont convaincus de la responsabilité de Joseph Caillot dans le meurtre de Calmette. Comprenez, ce crime serait politique. L'ancien ministre aurait utilisé sa femme afin de faire taire le directeur du Figaro, dont les révélations le menaçaient surtout sur le plan politique. Car au-delà de la publication de lettres intimes, ce que craignait Caillot, c'était surtout de voir révéler son implication dans l'affaire d'Agadir, une histoire où il a négocié unilatéralement et en secret avec les Allemands pour éviter un affrontement au Maroc. Bon, sur le papier, la thèse de crime politique est séduisante. Mais sur le papier seulement. Car dans la réalité, avec la mort de Calmette, Joseph Caillot a tout perdu, son ministère ainsi que ses ambitions politiques. À cela s'ajoute une autre hypothèse, celle d'un crime beaucoup plus passionnel qu'on ne pourrait l'imaginer, comme l'explique la journaliste Louise Weiss.
J'ai eu l'occasion également de parler à Madame Caillot de ses sentiments au moment de l'assassinat qu'elle avait perpétré. Notamment, je lui ai demandé très précisément un jour de confidence « Et qu'avez-vous pensé lorsque vous avez vu Calmette s'effondrer ?» Elle a réfléchi un instant et elle m'a dit « Finalement, je crois que j'ai pensé que je n'aimais pas le président Caillot, car il y avait eu dès ce moment-là des difficultés dans le ménage. Et je me suis toujours demandé, et je crois que c'est vrai, si elle n'avait pas tiré sur Calmette, non seulement par vengeance contre ce journaliste, mais aussi pour préserver son ménage et rendre son union avec Caillot indissoluble. Car évidemment, après ce coup de feu, Caillot n'a jamais pu divorcer.
Aux côtés d'Henriette Caillot, on trouve l'un des grands avocats de l'époque, Maître Fernand Laborie, ancien défenseur d'Alfred Dreyfus. Sa stratégie, démontrer que l'acharnement quasi viscéral de Gaston Calmette et du Figaro pour détruire la réputation du couple Caillot est l'élément déclencheur de ce drame. Laborie insiste également sur l'aspect passionnel et irréfléchi de l'acte, afin de faire s'effondrer l'accusation de préméditation. Pendant un peu plus de 3 heures, Henriette répond aux questions de la cour d'assises. Dans un débit saccadé qui trahit son émotion, sa passion, sa douleur, elle raconte une nouvelle fois la journée du 16 mars. Dans la presse d'époque, on peut lire des extraits de certaines de ses réponses à la cour. « Je voulais donner une leçon à Calmette, peut-être le blesser, mais en tout cas pas le tuer. » Henriette Caillot se permet même cette réplique qui suscite de nombreuses réactions dans la salle d'audience. C'est effrayant, un revolver. Ça part tout seul. Décidément, c'est une idée fixe. Autre élément qui va jouer un rôle déterminant, le rapport d'expertise mentale de l'accusé. Chargé par la justice d'établir la part de responsabilité d'Henriette Caillot, il la dédouane au titre d'un dédoublement de personnalité. Schizophrène, quoi. Comme l'expliquera plus tard l'historien Jean-Yves Le Naour.
Des experts psychiatres évoquèrent, je cite, un cas typique d'impulsion subconsciente avec dédoublement complet de personnalité survenu sous l'influence d'un état émotionnel et continu. Ces arguments, mettant le crime d'Henriette Caillot sur le compte de l'irrationalité et de l'émotion, correspondaient à l'image typique que les hommes avaient des femmes à cette époque-là.
La défense évoque aussi la responsabilité du médecin qui a soigné Gaston Calmette. Cet homme, le docteur Hartmann, est un praticien très réputé, mais certains de ses confrères lui reprochent d'avoir attendu trop longtemps avant d'opérer la victime. Maître Laborie y voit une opportunité de convaincre la cour que la mort de Calmette est due à une erreur d'appréciation médicale. Un peu capillotracté, mais bon. Puis de nombreux journalistes, responsables politiques, dont Aristide Briand, sont appelés à la barre. Le président de la République, Raymond Poincaré, est lui aussi cité, mais envoie son témoignage par écrit.
Monsieur l'huissier audiencier, veuillez procéder à l'appel des témoins.
Parmi les révélations qui saisissent la cour, il y a celle du directeur du journal Gilles Blas, Pierre Morlier. Et il assure que Madame Guédan lui a proposé les mêmes documents car son intention était de nuire à tout prix à son ancien mari. Morlier explique alors avoir refusé de publier ses documents par souci de déontologie. Gaston Calmette, lui, ne s'est pas fait prier pour afficher la copie d'une lettre transmise par Berthe Guédan, donc, en première page de son journal quelques semaines plus tard. Du côté de l'accusation, on tente de faire du procès d'Henriette Caillot celui de son mari, Joseph. Oui, son nom revient en permanence. L'accusation pointe aussi du doigt les privilèges de Madame durant sa détention provisoire. Il est vrai qu'elle a bénéficié d'un traitement particulier à la prison Saint-Lazare. Une cellule, d'ordinaire pour 6 détenus, lui était entièrement réservée. Elle recevait chaque jour ses repas par coursier venus d'une grande brasserie parisienne. Enfin, son mari, Joseph, pouvait lui rendre visite aussi souvent qu'il le souhaitait. Dans les colonnes du Figaro, les journalistes rapportent les mots du président de la cour. Une femme, rappelle-t-il, accusée d'avoir froidement et lucidement assassiné un homme qui n'avait commis aucune forfaiture.
Rien ne peut rendre le pathétique de cette audience. Mais est-ce bien une audience? Une foule trépidante et passionnée. Des cris, des injures, des outrages, des acclamations, des mots lancés comme des balles. Une odeur de salpêtre flottant dans une atmosphère électrisée. Un avocat en arrivant à singer son confrère et à se livrer à la barre à des imitations. Un médecin disant que si Gaston Calmette est mort, c'est qu'il s'est jeté au devant des balles. Un colonel jurant sur son honneur que Madame Caillot n'a point voulu tuer. Un témoin osant par deux fois, parlant du réquisitoire du procureur, le traiter de roman. Et un procureur général et un président ne faisant point respecter leurs collègues. Et tout cela devant la foule, devant l'opinion et devant des magistrats qui, demain, veulent se couper la gorge. Ce fut une audience avec toutes ses violences et une audience mal présidée. Mais ce ne fut pas la cour d'assises.
Mardi 28 juillet 1914. Après une semaine de procès et au terme d'à peine 50 minutes de délibéré, le jury populaire acquitte Henriette Caillot. Autour, le quartier était entièrement bouclé pour éviter les débordements. Alors on note effectivement quelques affrontements dans le quartier latin, là encore, entre pacifistes et bellicistes. La guerre est dans tous les esprits. Les amis proches du couple Caillot organisent, eux, une fête privée pour célébrer la liberté retrouvée d'Henriette. Dans son ouvrage « Femmes criminelles », le juge Gilbert Hill évoquera bien plus tard des éléments troublants qui peuvent laisser à penser que le procès et le délibéré du jury ont été influencés. 1. Le président de la cour d'assises, Louis Albanel, était une connaissance personnelle du couple Caillot. 2. Le ministre de la Justice de l'époque était lui aussi un proche de Joseph Caillot. Gilbert Thiel note au passage que le procureur général de la Cour d'appel de Paris a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur à 6 jours seulement du début du procès. 3. La rumeur reprise dans la presse de l'époque, selon laquelle Joseph Caillaux aurait demandé à un homme du milieu corse de faire venir des gens dans la salle d'audience pour applaudir les témoins à décharge. Enfin, élément apporté cette fois par l'historien Jean-Yves Le Naour, suite à l'étude des archives de la préfecture de police de Paris, il apparaît que parmi les membres de ce jury populaire, nombreux sont ceux qui étaient connus pour avoir des sympathies à l'égard des idées du Parti radical, le parti de Joseph Caillaux. La rumeur prétend que maître Fernand Laborie aurait réussi à obtenir la liste des jurés avant l'audience, afin de faire récuser tous ceux qui auraient pu avoir des idées opposées à celles de la gauche. 3 jours à peine après le verdict, Jean Jaurès est assassiné en plein Paris par le nationaliste Raoul Villain. Sur la crosse de son pistolet, le tueur a fait graver les initiales de Jaurès, mais également celles de Joseph Caillaux, qui aurait donc pu être sa prochaine victime. 3 jours plus tard, la France entre en guerre contre l'Allemagne. Les efforts des pacifistes, Caillaux, Jaurès et consorts, ont échoué sur le papier. Le sort des deux principales puissances d'Europe continentale se jouera désormais dans les tranchées.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
L'affaire Caillaux, aujourd'hui, une émission, je vous le rappelle, en partenariat avec Retro News, le site de presse de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Notre invité, Marc Edrich, bonjour.
Bonjour.
Magistrat et président de cour d'assises, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui revient sur le déroulement de plusieurs affaires judiciaires au début du XXe siècle, dont celle-là, et vous revenez en détail sur l'affaire Caillaux. Intitulé « Les acquittements scandaleux des années folles », votre livre est paru aux éditions Michelon en septembre dernier. Alors vous êtes en duplex et en direct avec nous dans les studios de Martinique Première à Fort-de-France, que nous remercions pour leur accueil. Donc, président de cour d'assises, première question, quel est votre regard de président de cour d'assises sur cette affaire?
Alors, l'affaire Caillaux fait partie de ce que j'appelle dans mon livre les acquittements scandaleux, car c'est un véritable déni de justice d'avoir acquitté cette femme, tant les preuves réunies contre elle pour la déclarer coupable d'assassinat étaient nombreuses. On a une arrestation immédiate, on a une arme achetée le jour même, on a un cadavre encore chaud, on a des témoins directs, on a une lettre signant la préméditation, comme le rappelle votre récit, on a des aveux réitérés. Que voulez-vous de plus? Je peux témoigner qu'en tant que président de cour d'assises, je présidais encore à la Martinique ici une affaire d'assassinat la semaine dernière, on n'a jamais autant de preuves.
Bien sûr.
Et pourtant, on condamne.
Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une erreur judiciaire, j'ai envie de dire à l'envers, parce qu'en principe, les erreurs judiciaires dépendent des accusés?
Oui, on distingue dans les erreurs judiciaires les erreurs liberticides, celles qui amènent à condamner un innocent, des erreurs d'impunité, celles qui amènent à acquitter des coupables, des assassins.
Alors, maintenant, voyons pourquoi ça s'est passé comme ça. Forcément, il s'agit de la femme d'un ministre. D'un ministre en cours, d'un ministre en vue, qui pourrait devenir président du Conseil. Bon, il paraît assez évident, à moins que vous me disiez le contraire, qu'on a là l'explication quand même de cette justice étrange.
Oui, alors on est dans un entre-soi politique. Il ne s'agit pas d'une affaire de justice de classe, comme on a pu le voir dans d'autres circonstances. L'accusé comme la victime appartiennent au même monde de cette bourgeoisie parisienne, de même que les présidents de la cour d'assises, de même que les jurés qui sont à l'époque des notables. Donc on est effectivement dans une sorte d'entre-soi judiciaire. Et pour les jurés, c'était certainement compliqué de se retrouver face à une accusée dans le box des accusés qui était femme de ministre.
Mais pourquoi vous dites, après tout, une justice de classe, elle peut, si elle est de classe, éventuellement privilégier une certaine classe, et la classe bourgeoise, celle-là. Donc ce serait une justice de classe aussi ou pas? Ou ça va que dans un sens?
Ça ne me paraît pas une affaire qu'on peut caractériser comme une affaire de justice de classe. Je pense qu'on est surtout dans une affaire où les dés étaient pipés dès le départ. Vous l'avez rappelé, oui. Le procès commence par une tricherie. à savoir que l'avocat de la défense va avoir connaissance avant le procès de la liste des jurés pour pouvoir finalement sélectionner un juré de notables très proches du parti radical. Et dans ces conditions, le procès était vicié, j'allais dire, dès l'origine, à tel point que l'huissier a expliqué qu'il était tombé dans l'escalier et de fait, l'urne qu'il apportait devant la cour d'assises n'était plus scellée. Enfin, ça paraît absolument aberrant rétrospectivement, mais dès le départ, il y avait une tricherie mise en place par le clan Caillot.
Est-ce qu'on peut imaginer que le personnel judiciaire, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas le président, même les avocats, le procureur, ont eu la crainte de voir leur carrière brisée si toutefois Caillot devenait un homme politique encore plus important.
J'ai pas eu, en travaillant sur le dossier, j'ai pas eu ce sentiment-là. Mm-hmm. Mais c'est vrai que ce qui est étonnant dans ce procès, c'est que le président reste toujours très courtois, très conciliant avec cet accusé. Le procureur adoptera également une attitude à l'audience très clémente en demandant au juré quasiment d'oublier la préméditation alors qu'elle était avérée, en cherchant des circonstances atténuantes multiples. Or, on a oublié dans ce procès que l'accusé a les mains pleines de sang. L'arme qu'elle a utilisée, qu'elle a achetée pour assassiner, fait partie des pièces à conviction sur la table devant les jurés. On a politisé ce procès à outrance et on a oublié que c'était d'abord une affaire de droit commun, d'assassinat et qui méritait un châtiment immédiat.
Vous êtes plongé dans les archives de presse de l'époque pour écrire votre livre, j'imagine. Cette affaire Calmette-Caillot est-elle du même niveau d'intensité médiatique que fut celle de l'affaire Dreyfus, qui n'est pas très loin, hein ?
Oui, nous sommes en 1914 et l'affaire Dreyfus s'est conclue par l'acquittement de Dreyfus en 1906. Alors je dirais que la couverture médiatique est aussi intense, mais elle va se développer sur une période bien plus courte. Vous avez parlé d'une affaire qui a duré finalement 4 mois, ce qui est très, très court pour une affaire criminelle. La couverture médiatique est très forte, les Français se passionnent pour cette affaire, qu'ils suivent comme un feuilleton journalistique, et on retrouve également une ligne de fracture, vous l'avez bien décrit, entre la gauche pacifiste et la droite nationaliste et plutôt guerrière. Mais à la différence de l'affaire Dreyfus, Dreyfus d'abord a été reconnu coupable, condamné au bagne à perpétuité. Henriette Caillot a été acquittée. Et puis on n'a pas cet antisémitisme de l'affaire Dreyfus qui a été une ligne de fracture énorme en France. On reste quand même sur quelque chose de moins impactant sur la société française.
Vous faites bien de rappeler que l'ensemble de la procédure a duré 4 mois parce que le temps de la justice est un temps long, hein, souvent très long. Là, c'est un temps très court. Est-ce que ça montre encore l'entre-soi, ça ? Ou c'est un hasard du calendrier judiciaire ?
Je pense qu'on est assez dans le hasard et d'autre part, du calendrier judiciaire, d'autre part, l'enquête était, j'allais dire, ultra simple. On avait arrêté l'assassin. Alors ça, c'est assez étonnant. Il n'y a pas de féminin pour le mot assassin. On peut dire un meurtre et une meurtrière, un meurtrier et une meurtrière. On ne peut pas dire un assassin, une assassine, ça n'existe pas. Pas de féminin au mot assassin. Mais donc, on arrête l'assassine sur place. On a l'arme, on a les aveux, on a le mobile, on a même une lettre de signature. L'instruction ne nécessitait pas de multiples investigations.
Donc, on essaiera de mettre le mot assassin et assassine dans l'écriture inclusive, trouver une solution.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Marc Edrich, lors du procès, la stratégie de la défense est d'orienter notamment les débats sur la responsabilité du médecin dans la mort de Calmette. L'argument apparaît vraiment spécieux. Est-ce qu'il fonctionne ?
En partie, ça fait partie des arguments qu'a développé Maître Laborie pour tenter de convaincre le jury. En partie, effectivement, il va faire citer des médecins qui vont plus ou moins déclarer que la prise en charge de Gaston Calmette dans un hôpital à Neuilly, assez éloigné du siège du Figaro, où on lui avait tiré dessus, pouvait prêter à discussion, en tout cas, oui.
Et alors, on a pointé aussi l'irresponsabilité d'Henriette Caillot sur le plan psychologique. C'était commun à l'époque de parler d'irresponsabilité pénale ?
Non, c'était. Mais ça faisait partie des questions que l'on mettait sur la table, parce qu'effectivement, quelqu'un qui est irresponsable pénal doit être acquitté. Il ne peut pas être considéré comme pénalement responsable d'un crime. Donc c'est une façon pour tenter d'orienter le jury, en tout cas vers plus de clémence. Mais parallèlement, les jurés constataient que Henriette Caillot, pendant les débats, tenait tout à fait, je dirais, la route, répondait aux questions avec acuité, avec raison. Et donc là, je ne pense pas non plus que l'argument est véritablement porté.
Sur la procédure et le déroulement du procès, ben c'est votre spécialité. En tant que spécialiste, avez-vous remarqué d'autres choses surprenantes ou insolites ?
Alors déjà, il faut que les auditeurs sachent que la cour d'assises à cette époque ne fonctionnait pas comme aujourd'hui. La cour d'assises est héritière de la Révolution française et le jury était tout puissant. Ça se passait en deux temps à la fin du procès. Le jury se retirait pour délibérer seul, sans magistrat professionnel. Donc on avait 12 hommes. Des notables, pour la plupart, rien à voir avec aujourd'hui où on tire les jurés au sort sur les listes électorales. Ils se retiraient seuls pour répondre à la question « Henriette Caillot est-elle, oui ou non, l'auteur du meurtre de Gaston Calmette ?» Et deuxième question, « Y avait-il préméditation ?» Et donc, au bout d'une demi-heure, les jurés sont revenus et ont répondu « non » à la question du meurtre. Et la deuxième question devenait sans objet. Et les acquittements scandaleux, comme c'était un terme de journaliste, les acquittements scandaleux du 19e siècle et du début du 20e siècle sont liés à cette situation où les jurés étaient livrés à eux-mêmes pendant ce temps du délibéré, sans bien connaître le droit d'abord, et sans bien connaître non plus les conséquences de leur décision. Ce n'est que dans un deuxième temps que, si la réponse avait été oui, les magistrats professionnels déterminaient à la lecture du code pénal quelle était la peine applicable. Et pour un assassinat, la peine applicable était la peine de mort, principalement, et éventuellement le bagne. Et on sait que dans ce procès, les jurés ont hésité et ont fait appel, comme c'était permis, au président Albanel pendant le délibéré pour avoir plus de précisions sur quelle pouvait être finalement la peine, en souhaitant certainement déclarer coupable Henriette Caillot, mais la sanctionner à une peine plutôt faible. Or, le minimum prévu par la loi était 5 ans de réclusion criminelle. Et ils ont dû arbitrer, c'est ce que pensent un certain nombre d'observateurs, en se disant, est-ce qu'il faut maintenir cette femme de ministre en prison autant d'années ? Et ils ont finalement préféré la quitter. Il y avait cet enjeu systématique dans ces procès, où les jurés étaient un peu partagés comme ça entre la réponse sur la culpabilité et la réponse sur la peine qui ne leur appartenait pas.
D'autant que là, il y a une vraie différence entre une femme et une femme de ministre. C'est quand même le nœud du problème.
Exactement. Et Maître Laborie ira même jusqu'à dire aux jurés, comment voulez-vous que dans le cerveau d'une femme puisse loger ce qu'on appelle une préméditation ? Faut savoir que les propos étaient particulièrement sexistes et à l'époque, et ça ne gênait personne puisque nous étions dans une société exclusivement composée d'hommes.
Et puis l'avocat pensait que c'était pour la bonne cause. Voilà. C'était l'impunité. Dans votre livre, on découvre une anecdote assez incroyable, mais on l'a évoqué rapidement à la fin du récit. Le pistolet de Villain, donc le meurtrier de l'assassin de Jaurès, avec les initiales de Jaurès, bon, ce qui paraît logique. Et de Caillot, comment vous traduisez ça, vous ?
Alors c'est vrai qu'il faut savoir que 3 jours après l'acquittement d'Henriette Caillot, Raoul Villain va assassiner Jaurès. Et donc on imagine que Raoul Villain, qui était un grand lecteur de la presse, a eu connaissance de l'acquittement d'Henriette Caillot, ce qui a certainement encouragé son dessein, si je puis dire. Et il avait effectivement gravé les initiales de Caillot sur son revolver. Il faut savoir que Raoul Villain avait d'abord imaginé assassiner le Kaiser. En Allemagne. Oui. Et puis ensuite, il avait...
Il aurait rendu service à toute l'Europe.
Hein. il avait ensuite 2 ennemis en France. C'était Joseph Caillot et Jean Jaurès, qui étaient en fait repérés comme s'étant opposés tous les deux à la loi des 3 ans, quelques années auparavant.
De service militaire.
Cette loi d'augmentation de la durée du service militaire. Mais finalement, il a jeté son dévolu sur Jaurès parce que Jaurès était plus présent dans la presse, dans les médias, dans les meetings, pour tenter d'éviter la guerre, tenter de rapprocher les prolétaires allemands et les prolétaires français pour, encore une fois, empêcher cette boucherie à venir.
Ce genre d'acquittement, à tort, on va dire ça comme ça, pourrait-il avoir lieu aujourd'hui? Je veux dire, est-ce que la justice dispose de mécanismes pour éviter ce genre d'erreur dans ce sens-là?
Alors oui, on a quand même beaucoup progressé. Depuis 1941, donc les jurés ne sont plus livrés à eux-mêmes. Au moment du délibéré, ils délibèrent avec les magistrats professionnels. Nous avons actuellement 6 jurés et 3 magistrats professionnels qui composent à eux tous la cour et qui décident collectivement du sort de l'accusé. Ça change quand même pas mal.
Oui, c'est encadré, oui, bien sûr.
Voilà. Et puis, il y a cette possibilité d'appel qui existe depuis 2001, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des acquittements qui paraissent discutables, eh bien le ministère public, l'avocat général peut interjeter appel et à ce moment-là un nouveau procès a lieu. Enfin, il y a des mécanismes comme ça de régulation qui sont manifestement intervenus pour soit éviter les acquittements scandaleux, soit en tout cas les limiter au maximum.
Dernière question. Je crois savoir que vous vous intéressez à une affaire martiniquaise qui remonte aux années 30 et qui sera le sujet de votre prochain projet. Vous confirmez?
Vous êtes bien informé.
N'est-ce pas?
Je m'intéresse, oui, avec grand intérêt à une affaire qui s'appelle l'affaire d'André Aliker, qui est un journaliste martiniquais qui a été assassiné en 1934, qui est un véritable Jaurès martiniquais. Très courageux, avec des éditoriaux très orientés sur la dénonciation des scandales qui avaient lieu dans cette colonie de la Martinique. Et c'est un crime, l'assassinat d'André Aliker, qui est un crime qui reste impuni. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment la justice coloniale s'est fourvoyée dans cette affaire.
Alors, je vous fais une promesse. Nous ne traiterons pas cette affaire avant que votre livre sorte. Mais dès qu'il sort, on traite cette affaire. Elle est intéressante, elle est éligible pour l'émission Affaires Sensibles. Il me reste à vous remercier et à vous saluer. Au revoir.
Merci à vous et je retiens votre promesse.
Vous pouvez. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Caillot, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Caillet.